Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h, Charles Matin,
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 août 2022. Bienvenue dans Charles Matin. J'espère que vous allez bien, que la nuit n'a pas été trop compliquée avec la canicule. Envoyez-moi vos petits messages sur Direct Studio. Ce matin, on va parler d'un problème qui vous concerne directement, les pénuries de main-d'œuvre qui touchent de nombreux secteurs, l'hôtellerie et la restauration alors qu'on est en pleine saison, mais aussi le bâtiment, la santé. C'est un vrai casse-tête pour les entreprises et ça a des répercussions concrètes sur les salariés qui doivent assumer une charge de travail plus importante en attendant que les employeurs réussissent à recruter. Venez témoigner ce matin sur RMC. Je voudrais qu'on réussisse à montrer l'ampleur du problème. Et c'est avec vos appels qu'on va y arriver. Et puis je vous pose une question directe ce matin sur RMC. Est-ce la faute des patrons? Est-ce que les employeurs font assez d'efforts en termes de rémunération et de conditions de travail? Vous nous dites au 3216 et sur l'application Direct Studio. On en débat ensemble tout au long de la matinée. L'autre sujet sur lequel je vous attends ce matin, c'est le droit de vote aux élections municipales. Le député Renaissance Sacha Houlier veut l'accorder à tous les étrangers. Aujourd'hui, seuls les étrangers résidant en France, issus de l'Union européenne, y ont droit. Alors pourquoi pas les autres, les Tunisiens qui vivent et qui travaillent en France par exemple? Dites-nous ce que vous en pensez, ça fait débat, on le verra au sein même de la majorité. Et puis il y aura ce matin aussi tous nos rendez-vous évidemment. Dans la story sport, Léna Marjac va nous parler de Serena Williams qui va prendre sa retraite pour pouvoir faire un deuxième bébé, on l'a appris hier. L'occasion de revenir sur son immense carrière et sur l'icône qu'elle est devenue au fil des années, ce sera juste après le journal de 5h30. Dans l'été d'Angèle, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui. Et puis on va jouer à la voix du jour juste après le journal de Stéphane Geneste. D'abord, la météo avec toi, Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Qu'est-ce que ça va devenir dans le ciel aujourd'hui?
Eh bien, toujours un ciel dégagé, plein soleil, et puis du vent malheureusement qui va souffler sur tout le pays. Vent de nord-est dans la moitié nord jusqu'en Gironde d'ailleurs, donc une très large moitié nord. Du vent de sud dans la vallée du Rhône et du vent d'autan en pleine toulousaine, le tout à 40 km/h en rafale. Et puis quelques orages se déclencheront en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse. Les températures sont encore en hausse. On sera entre 30 et 36 degrés sur tout le pays cet après-midi, 34 à Paris, à Lyon et à Marseille, et des pointes à 38 voire 39 degrés entre Bordeaux, Toulouse et Mont-de-Marsan. 16 départements de la façade ouest sont en vigilance orange canicule. En revanche, le Gard et le Vaucluse devraient en sortir à partir de 6 heures.
Merci Anthony.
Votre météo en toute sérénité avec Vérissure. Vérissure, le numéro 1 des alarmes et caméras avec protection 24h sur 24. Mercredi 10 août.
L'info sur RMC.
Il est 5h, bon réveil à tous, c'est le journal de Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, le beluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau. Première étape de l'opération de sauvetage du cétacé. Le retour des flammes en Gironde, 1000 hectares ont été détruits et 3500 personnes évacuées. Et puis la désillusion pour l'AS Monaco, les Monégasques ont dit au revoir à la Ligue des Champions hier soir après leur défaite 3-2 face au PSV Eindhoven.
On commence avec ces nouvelles du beluga retrouvé dans la Seine il y a quelques jours.
L'opération de sauvetage du cétacé a commencé hier soir. Elle s'est poursuivie tout au long de la nuit. On vous retrouve sur place, Mathieu Limongi. Et il y a une petite heure, premier succès pour les secouristes. Le beluga a été sorti de l'eau.
Oui, enfin, car l'opération était vraiment très compliquée à piloter. Des heures de préparation, 60 personnes mobilisées, dont 25 plongeurs qui enlèvent là en ce moment même à peine leur combinaison. Une immense grue pour sortir l'animal, un dispositif hors norme, inédit, c'est ce qu'on nous a dit, et des manœuvres très techniques qui ont duré plusieurs heures, 7 heures au total. Et puis, il y a eu quelques difficultés et des moments de tension, notamment pour faire rentrer l'animal dans cet immense filet qui faisait plusieurs dizaines de mètres. Mais il y a une heure, vous l'avez dit, soupir de soulagement général, on a pu apercevoir au loin la grande silhouette blanche du beluga, sain et sauf bien sûr, qui ressemblait de loin à une grande statue de marbre dans la lumière de la nuit. Mais attention, le périple n'est pas tout à fait fini. Après des examens sur l'animal, on l'amène là en ce moment même sur un bateau qui est juste derrière moi, jusqu'au camion, qui doit ensuite le transporter jusqu'à Ouistreham.
Merci beaucoup Mathieu Limongi, on vous retrouve tout au long de la matinée et on suit avec vous cette opération de sauvetage de ce beluga.
On la suit avec Mathieu Limongi, mais aussi avec Isabelle Brasseur, responsable recherche et conservation au parc Marineland d'Antibes. Elle sera notre invitée à 7h10 et c'est très intéressant parce qu'elle participe à l'opération qui a lieu en ce moment. On pensait que c'était terminé, et bien non, les feux de forêt ont repris en Gironde.
Près de Landiras, où 1000 hectares de pins sont partis en fumée, 3500 personnes ont été évacuées et les pompiers ne sont pas vraiment optimistes. Ils estiment que la situation est jugée très défavorable et à Ostens, Garance-Munoz, on s'organise comme on peut.
Refaire ses valises, fermer à nouveau sa maison sans vraiment savoir quand il reviendra, c'est la deuxième évacuation de l'été pour Xavier qui habite au Stance.
Forcément, on laisse sa maison, donc on ne sait jamais dans quel état on va la retrouver. Surtout qu'on l'a déjà vécu une première fois où, soi-disant, on devait partir pour quelques heures et puis que ben, ça a duré plus d'une semaine. Donc là, on a toujours peur que ça se renouvelle de la même façon et qu'on soit malheureusement amené à ne pas rentrer demain ou après-demain.
Dans la salle communale qui accueille ceux qui ne savent pas où aller, Georgette est attablée avec ses voisins, encore sous le choc.
C'est les voisins qui m'ont dit ça, ils m'ont dit vite, vite. Prépare-toi, il faut évacuer. Quand on voit ces grands machines de flammes, là, ça fait peur quand même.
Elle ne sait pas où elle dormira les prochains jours. C'est le maire d'Ostens, Jean-Louis Dartilly, qui assure l'organisation une situation compliquée face à un incendie violent.
Ça brûle vraiment intensément. Les pompiers n'essaient pas de lutter. Ils sont en faction devant les maisons pour les protéger. Ils arrosent les maisons. On espère que ça s'arrêtera quand il pleuvra.
L'ensemble de la commune d'Ostens a été évacué.
Garance Munoz avec les équipes de BFM TV. Et autres feux qui inquiètent les autorités entre l'Aveyron et la Lozère, où ce sont 700 hectares de végétation du parc naturel régional des Grandes Causses qui ont disparu. L'incendie a cessé de progresser, mais il n'est pas maîtrisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera sur place dans la journée.
Ces incendies donc favorisés par les fortes chaleurs et la sécheresse qui frappe le pays. Sécheresse qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours.
Notamment au niveau du robinet, la consommation d'eau est encadrée dans bon nombre de départements. Certaines communes sont d'ailleurs tout simplement privé d'eau potable. Mais sur nos maisons aussi, on voit l'effet des fortes chaleurs et du sol sec et elles sont parfois victimes de fissures, Alfred Orange.
Dans le salon de la famille Pierre, les fissures parcourent les murs du sol au plafond.
On en voit sur la cheminée, on en voit. Là, on en a à l'autre côté.
Les premières sont apparues à l'été 2003 en pleine canicule. Christiane et Alain ont alors consolidé les murs, mais depuis, ces craquelures reviennent constamment.
On a l'air impuissant.
Eux ont déjà déboursé 20 000 euros. Mais pour convaincre assurance et experts que c'est la sécheresse qui est responsable de leur détresse, c'est la croix et la bannière.
On a enlevé les arbres qui étaient devant la maison parce qu'il estimait que les racines pompent l'eau et donc que c'était aussi en partie à cause de ça qu'on avait des fissures sur la maison.
Dans la région, ils sont des milliers à être concernés. François Manneville a créé il y a 6 mois l'association Lorraine Cata Sécheresse pour tenter de rééquilibrer le rapport de force entre assurances et sinistrés.
L'équilibre qu'on demande, c'est qu'ils mettent les moyens en amont pour que les sinistrés puissent dire à l'assurance, voilà, j'ai une étude de sol par un expert indépendant qui me dit que c'est la sécheresse. Donc, je déclare mon sinistre. Et non pas dans le sens inverse.
Désormais, ces associations veulent s'unifier pour constituer au plus vite une fédération nationale.
Reportage d'Alfred Orange. Ce drame à l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône, une fillette de 5 ans est morte noyée hier. Elle a été emportée par le courant et n'a pas pu être réanimée par les secours. Une autre jeune fille de 7 ans a pu, elle, être secourue par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital. RMC, 5h05, et on en vient à cette proposition de loi d'un député de la majorité, Sacha Houlier, veut élargir le droit de vote à tous les étrangers pour les élections municipales. Une proposition qui fait réagir au sein même du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur n'est pas forcément pour. Alors, Romain Cluzel, ce texte pourrait créer une fracture au sein de la majorité.
Le sujet est sensible et Sacha Houlier précise qu'il présente ce texte à titre personnel. Pour justifier sa proposition, il prend l'exemple d'un Britannique qui n'a plus le droit de voter en France depuis le Brexit. Avec ce texte, le député de la Vienne est désormais président de la commission des lois, espère mettre en avant un un marqueur de gauche au sein de la majorité. Le droit de vote de tous les étrangers aux élections locales, promis par François Mitterrand puis François Hollande, n'a jamais abouti. La proposition doit être discutée au sein de la majorité à la rentrée, mais elle devrait surtout ressurgir en octobre, au moment du débat sur l'immigration souhaité par Gérald Darmanin. L'entourage du ministre de l'Intérieur s'est empressé de marquer son opposition au texte de Sacha Houlier. En plus de cela, Sacha Houlier doit faire face au refus net des députés de droite et d'extrême droite.
Éric Ciotti, député LR, se prononce contre ce texte grave et dangereux selon lui. Il est l'invité de Sébastien Krebs dans la matinale d'RMC, dans Impoline Matin, à 8h40.
Le début aujourd'hui de l'expérimentation en pharmacie de la vaccination contre la variole du singe. Seulement 5 officines du pays sont concernées pour le moment. La phase d'expérimentation devrait durer 2 semaines, avec l'objectif d'étendre cette vaccination dans ces établissements. L'heure du procès pour Benjamin Mendy, c'est ce matin que le footballeur français devra s'expliquer devant un tribunal du Royaume-Uni. Il est accusé de viol, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Le procès devrait durer un peu plus d'un mois. Benjamin Mendy risque la prison à vie.
Football sur le terrain. La marche était un peu trop haute hier soir pour Monaco.
Les Monégasques n'ont rien pu faire face aux joueurs du PSV Eindhoven. Ils ne disputeront pas la phase de poule de la Ligue des Champions. L'ASM a donc été battu après prolongation, 3-2, alors que le club de la Principauté était pourtant qualifié à seulement 2 minutes de la fin, Arnaud Valadon.
Abattu, sonné, hagard, les joueurs de l'AS Monaco étaient KO debout hier soir dans l'enfer du Philips Stadium d'Eindhoven. Pourtant, l'ASM avait tout fait hier soir en menant 2-1 jusqu'à la 88e et après avoir encore touché à 2 reprises les montants. Une fin de match cruelle en prolongation qui replonge Monaco dans ses démons. Battu l'an passé en barrage par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, les Monégasques ont encore failli. Cela fait désormais 4 ans qu'ils ne disputent plus la phase de poule de Ligue des Champions, convoité à la fois pour le prestige mais aussi pour ses rentrées financières, minimum 15 millions d'euros. La fin du mois d'août s'annonce agitée pour l'ASM qui avait prévu de recruter mais qui pourrait être contraint de céder d'autres joueurs majeurs après déjà le départ d'Aurélien Tchouaméni en juin pour 80 millions d'euros au Real Madrid.
Et puis l'OM a une nouvelle recrue. Alexis Sanchez va s'engager pour 2 ans avec l'Olympique de Marseille. La star chilienne de 33 ans a été accueillie hier soir à l'aéroport de Marignane par 1 millier de supporters. Il sera présenté en conférence de presse cet après-midi au Vélodrome. Et puis cet autre rendez-vous, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Francfort, vainqueur de la Ligue Europa. Ce soir, ce sera à 21h lors de la finale de la Super Coupe d'Europe. Ce sera à Helsinki en Finlande. Match à suivre à partir de 21h à la télé sur RMC Sport 1 et à la radio évidemment sur RMC.
Merci beaucoup Stéphane. On te retrouve dès 6h avec Sébastien Krebs et toute l'équipe d'Apolline Matin. C'est l'heure de jouer.
RMC,
la voix du jour.
La voix du jour, c'est cette voix qui vous permet de commencer la journée avec de beaux cadeaux. Je vous rappelle le principe, vous tendez l'oreille pour reconnaître la voix de cette personnalité.
L'année dernière, c'était une grosse saison. Après, maintenant, c'est un nouveau challenge. L'idée que j'ai en tête, c'est de faire mieux, d'être meilleur encore sur le terrain. Mais de toute façon, je suis préparé mentalement pour essayer de faire beaucoup mieux.
Alors, je vous donne quelques indices. C'est un joueur de l'équipe de France qui a fait une très belle saison l'an dernier avec le Real. Il a toutes ses chances pour le Ballon d'Or, dont on va connaître les nommés vendredi prochain. Il joue ce soir face à Francfort en finale de la Super Coupe d'Europe. Stéphane vient d'en parler. Si vous avez trouvé, vous repartirez peut-être avec une montre Ice Watch Solar Power qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Pour cela, c'est simple. Il faut tenter votre chance au 32-16. Bonne chance à vous. Dans un instant, dans Charles Matin, on va parler des pénuries de main-d'œuvre qui touchent de nombreux secteurs. Avec une question, les patrons en font-ils assez pour pouvoir recruter ? Reportage à suivre dans un instant et je vous attends.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin. RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
Anaïs Castagna.
5h11, bon réveil à tous. Les patrons sont-ils responsables des pénuries de main-d'œuvre ?
C'est la question du jour sur RMC.
C'est un problème qui touche l'hôtellerie et la restauration, la construction, les transports routiers, la santé. Dans de nombreux secteurs, on n'arrive pas à recruter et ce n'est pas sans conséquence. Faute de pouvoir trouver des salariés, de nombreuses entreprises sont obligées de réduire la voilure, voire carrément d'arrêter certains services. À qui la faute ? Les patrons doivent-ils faire plus d'efforts pour réussir à recruter ? Est-ce qu'ils doivent mieux payer leurs salariés ? On vous pose concrètement cette question ce matin sur RMC. Appelez-nous au 3216. Écrivez-nous sur l'application Direct Studio. J'attends vos témoignages ce matin. En attendant, eh bien, on est allé voir des chefs d'entreprise qui se sont décarcassés pour trouver des salariés. Ils ont réussi à le faire. Comment ? Reportage de Paul Barcelone. Écoutez.
Pour attirer puis garder des employés.
Il n'y a pas 50 000 solutions.
Une marche à presque tous les coups, augmenter les salaires. Ce qu'a fait encore récemment David Zenouda, propriétaire de plusieurs bars et restaurants.
Moi, sur un établissement que j'ai sur la côte atlantique, eh ben, on a dû proposer des salaires augmentés par rapport à ceux de l'année dernière d'environ 10 à 20%. Le chef de cuisine qu'on a pris cette année, il est payé nettement plus que celui de l'année dernière.
Mais il n'y a pas que les salaires. Certains chefs d'entreprise misent aussi sur les conditions de travail. Salle de repos à disposition, week-end de 3 jours ou encore télétravail et voiture de service. Option choisie par Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP en Seine-Saint-Denis.
Je rageais avant de partir en congé en me disant que mon entreprise devenait un garage automobile parce que tout le monde veut une voiture électrique ou une voiture hybride pour se déplacer, venir au boulot le matin. Ce qui compte, c'est que le salarié se sente bien, autonome, ayant la confiance de son patron. C'est sûr que le matin, quand vous vous levez, vous posez le premier pied par terre, vous dites « qu'est-ce que je vais faire de sympa aujourd'hui ?» Si vous n'avez pas ça en tête, changez de boîte.
Des efforts synonymes d'investissement, souvent de plusieurs milliers d'euros, qui obligent ces chefs d'entreprise à rogner sur leurs marges.
Alors ce matin, je voudrais entendre des patrons et des salariés. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les chefs d'entreprise en font assez pour pouvoir recruter ? Est-ce que ces entreprises doivent augmenter les salariés, proposer plus d'argent aux candidats ? Vous nous dites au 32-16, je vous attends. Ibrahim tient nos appels de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Fidèle auditeur d'RMC, vous êtes infirmier libéral, c'est ça Ibrahim ?
C'est ça.
Vous êtes confronté à ces difficultés de recrutement ?
Ah bah oui, moi je ne trouve pas de remplaçant. Donc je travaillais 7 sur 7, 24-24, je ne trouve pas de remplaçant. Mais je ne pense même pas que ce soit salaire, parce que enfin voilà, un infirmier libéral, ça gagne très bien. Mais c'est les horaires, ça ne leur plaît pas, c'est trop tôt, c'est pas assez de repos, enfin voilà, c'est...
C'est ce qu'on vous dit, vous avez reçu des candidats et c'est ce qu'on vous dit
à chaque
fois.
Ah oui, moi à chaque fois, on a fait la journée d'essai, etc., ça se passait très bien.
Ouais.
Et puis finalement, ils t'envoient un message la veille avant qu'ils doivent commencer et qu'ils te disent bah, finalement c'est trop tôt, je peux pas.
En même temps, on sait très bien que c'est le métier aussi qui veut ça, non ? Infirmier libéral, ce sont
ouais,
souvent
mais les gens,
des
veulent
horaires...
travailler le moins possible maintenant.
Vous pensez que c'est ça le problème, que c'est pas la faute des patrons, que c'est la faute d'un manque de motivation de la part des demandeurs d'emploi ?
Ouais, moi je pense qu'il y a un énorme manque de motivation, mais après le mec il gagne 1600 euros au chômage et s'il travaille, il gagne 1800 euros, il reste au chômage, hein.
Ça serait 1800 en l'occurrence pour vous remplacer, Ibrahim ?
Non, pour nous c'est beaucoup plus, hein. Ouais. Pour nous c'est plus de... Mais moi par exemple j'ai un ami qui a fait ça, il a dit bah, je gagne 1800, alors je gagne 1600 au chômage, je reste au chômage.
Vous pensez qu'on récompense trop les chômeurs, qu'il faut réformer encore ?
Ah, moi, je pense que oui.
De quelle manière ?
Je ne sais pas, mais il faut que ça soit plus dur, en fait. Déjà, l'accessibilité doit être plus dure.
Est-ce que ça doit être, justement, indexé en fonction du niveau de besoin ? Est-ce que si, par exemple, il y a beaucoup de on demande beaucoup de main-d'œuvre, on doit dire, dans ce cas-là, on donne moins d'assurance chômage ?
Ah non, parce que ça, c'est pénalisé... Enfin, non, ça, je trouve pas que ça c'est une bonne idée. Moi, je pense plus que c'est l'accessibilité qui doit être beaucoup plus renforcée.
C'est-à-dire
droit de chômage, au bout de 6 mois, tu as le droit au chômage.
Ouais.
Non, il faut faire plus longtemps, au bout de quelques temps, un an ou un an et demi.
Ouais. Vous pensez que ça serait la solution pour pallier à ces pénuries qui pénalisent dans tous les secteurs, hein. On le voit dans le secteur de la santé, mais aussi dans le transport, je le disais. Ça met... plein d'entreprises en difficulté aujourd'hui. Hein.
Ah bah oui, mais parce que moi aussi, après j'ai des appartements que je dois gérer, par exemple pour la conciergerie. Bah ouais. Lui, c'est pareil. La femme de ménage, elle demande 25 euros de l'heure.
Oui. Mais et en même temps,
il était obligé de le donner.
Et en même temps, Ibrahim, est-ce que c'est pas normal d'imposer ces tarifs ? Est-ce que c'est pas bienvenu de la part des salariés qui pendant longtemps n'ont rien dit justement parce qu'on leur disait, il y a pas de boulot, c'est ça ou rien du tout. Maintenant, on nous dit, on demande, on cherche des salariés, donc autant en profiter peut-être, non ?
Ah bah oui, moi je suis d'accord. Moi, j'accepte, il y a pas de souci. Hein. Mais du coup, par exemple, je lui demanderai moins d'heures, par exemple.
Oui. Merci Ibrahim d'avoir réagi ce matin sur RMC. Vous êtes au boulot là ?
Oui.
Vous avez commencé la journée à quelle heure exactement?
À 5h.
À 5h, vous avez commencé la tournée?
Oui, on a commencé la tournée.
Vous ne savez pas quand ça va se terminer?
Si, elle se termine entre 19 et 20 heures.
Oh là 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 là, ouais, c'est ça aussi. C'est des journées, mais à rallonge, ouais. 5 heures du matin jusqu'à 19 heures.
Rien sans rien. Hein.
Bon courage, Ibrahim, et à très vite, à l'écoute d'RMC.
Merci, au
à très vite. Vous réagissez à ce que vient de dire Ibrahim, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce la faute des salariés, d'un manque de motivation? Ou au contraire, est-ce que les patrons doivent faire plus d'efforts? On en parle tout au long de la matinée avec vous au 32-16. C'est l'heure de la chronique des artisans.
Les artisans de nos régions.
Direction ce matin le village de Larsor, coincé dans les collines vertes du Pays Basque, où se fabriquent depuis plus de 7 générations des bâtons de marche appelés les maquilas, un savoir-faire inscrit à l'inventaire des métiers d'art rares de l'UNESCO. La famille Bergara le perpétue, ce savoir-faire, dans son atelier, et Marie Sands nous fait visiter. Écoutez.
L'origine de l'atelier, on ne la connaît pas exactement. Je sais que c'est très frustrant, mais c'est comme ça.
Sixième génération de fabricants, Nicole Bergara a longtemps géré l'atelier familial avant de laisser la main à sa fille.
C'est des photos qui ont été faites en 1919. Alors vous voyez, c'est le même établi, le même étau.
Cette famille est la dernière à fabriquer des maquilas sur mesure et de façon artisanale.
Autrefois, on en trouvait dans toutes les vieilles maisons et ce maquilas se transmettait de génération en génération. C'était un compagnon de marche, parfaitement équilibré en son milieu. Comme il y a la dague à l'intérieur, ça servait éventuellement à régler les comptes. Pourquoi il a subsisté comme ça? Parce que notre famille s'est dévouée, que ça demande un tel travail.
À commencer par le bois, les néfliers poussent derrière l'atelier pendant 7 à 8 ans. Les branches sont gravées pendant leur croissance, puis il faut les sécher, les huiler et les colorer.
C'est une vingtaine d'années en tout, facile.
À chaque client, le morceau de bois idéal en fonction de sa taille, son poids. Une fois le bâton choisi, les artisans commencent le montage. Shimoun pose deux viroles en métal en haut et en bas du maquila. Chaque pièce est unique.
C'est toujours dans un souci d'être pile poil à la bonne taille et personnalisé pour le bois. Et après, voilà, pour que ça rentre bien en force et bien parfaitement dans le bois. À l'enclume qui est derrière vous. Et là, c'est prêt.
Ce métal, du laiton, du maïchor ou de l'argent, est ensuite décoré de gravures. Chaque artisan fabrique ses propres outils.
Là, je vais faire du guillochage entre les traits que j'ai tirés. Bien forcé pour entrer dans la matière et faire des jolis sillons. J'ai fait deux poinçons qui sont complémentaires pour pouvoir faire la croix basque.
Puis Xavi, artisan maître d'art, s'occupe de frapper le nom et la devise du client en basque.
Là, il a mis tout simplement toujours plus haut. Beti Golago. Le Beti veut dire toujours, donc c'est B, alors je vais taper.
Au bas du bâton, le nom du fabricant, Inciar Bergara. Le pommeau où sont gravées les initiales du client est lui tressé de cuir grâce à une méthode secrète. Chaque année, près de 1000 maquilas sont fabriqués ici.
Il n'y en a pas de pareil parce que le bois n'est jamais pareil. Ça dépend quel artisan fait les gravures, donc c'est pas fait pareil. Bah, ça peut être pour le bac, ça peut être pour une naissance, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un coup de cœur ou Saint-Jacques de Compostelle aussi.
Mais il faut être patient, 1 an et demi à 2 ans d'attente et cela coûte de 380 à plus de 800 euros.
Ah oui, c'est pas donné, mais en même temps, il y a un vrai travail, un vrai savoir-faire, donc forcément, ça se paye. Merci beaucoup, Marie. Je vous rappelle le débat du jour face à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que les patrons doivent faire plus d'efforts? Doivent-ils payer mieux les salariés? On vous pose la question ce matin sur RMC, vous réagissez au 32-16 et sur l'appli, hein, je l'ai là sous les yeux. Ibrahim, infirmier libéral qui vient d'intervenir, vous a fait réagir. Ludo nous dit tout à fait d'accord avec lui. J'offre 2600 euros net par mois et le repos le dimanche pour un poste de pâtissier et on me dit je veux le repos le samedi, le dimanche, les vacances en juillet et en août. Il a du mal à trouver. Est-ce que c'est un problème de motivation? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que c'est la faute au patron? Vous réagissez, vous nous appelez dans un instant. Les insolites de Quentin, tout de suite.
RMC jusqu'à 6h, Charles Matin.
Il est 5h22, vous écoutez RMC, bon réveil à tous. À la une ce matin, des reprises de feu près de Landiras en Gironde. Les pompiers jugent la situation très défavorable. 1000 hectares de pins ont brûlé, 3500 personnes ont été évacuées dans l'Aveyron. 700 hectares ont été brûlés. Hier soir, l'incendie ne progressait plus, mais il n'était pas encore maîtrisé. Le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, affirme que les pompiers sont exténués. Écoutez-le.
Les équipes sont fatiguées, travaillent dur. On a parlé de la précaution.
l'électricité, mais la globalisation des feux, c'est à prendre en compte. On l'avait projeté des cartes avec les rapports du GIEC. C'est des choses qu'on avait projetées à T+5, T+10 ans et qui arrivent déjà dès cet été.
Le Beluga, égaré dans la Seine depuis une semaine, a été sorti cette nuit de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne. Première étape de l'opération qui vise à le remettre en mer. Et puis, nouvelle désillusion pour l'AS Monaco hier. Le club de la Principauté ne va pas disputer la phase de poule de Ligue des Champions. L'AS Monaco a été battu après prolongation 3-2 par le PSV Eindhoven hier soir. La météo avec Anthony Kaczmarek. Soleil et forte chaleur aujourd'hui.
Oui, avec en plus du vent qui va souffler sur tout le pays. Vent de nord-est sur la moitié nord et sur la côte atlantique. Vent de sud dans la vallée du Rhône. Vent d'autant en plaine toulousaine. Tous ces vents vont évidemment malheureusement renforcer le risque d'incendie. Et puis quelques orages éclateront sur les reliefs du sud. En cours d'après-midi, les températures encore en hausse. On est très souvent ce matin entre 15 et 22 degrés. Dans l'après-midi, il fera 31 à Nice, 32 à Lille et à Strasbourg, 34 à Paris et Marseille, 36 à Nantes, 38 à Bordeaux et Toulouse, 39 à Cahors et 16 départements de la façade ouest jusqu'à la plaine toulousaine sont en vigilance orange canicule. En revanche, le Gard et le Vaucluse vont en sortir à 6h.
C'est l'heure des insolites de Quentin.
Les insolites de Quentin.
Alors, Quentin va nous dire sa petite histoire et puis moi aussi, je vous raconterai une petite information que j'ai repérée. On commence avec toi, Quentin, toi qui apprécies particulièrement les jeux de mots, notamment ceux qui concernent les salons de coiffure. Une carte qui recense les meilleurs noms a été mise en ligne.
Oui, sur le site tif.hir, vous trouverez une carte interactive assez incroyable. Elle est basée sur les données de l'INSEE et recense les salons de coiffure aux noms les plus originaux. 6104 salons quand même sont indiqués sur la carte, en sachant que celle-ci n'est pas exhaustive puisqu'il y a environ 86 000 salons en activité en France. Donc pour la sélection, les salons avec dans leur nom les mots R, Tif, Epi ou Mèche, par exemple, ont été gardés. On peut donc découvrir les meilleurs jeux de mots possibles.
Alors, quels sont les meilleurs?
Alors, la carte est organisée en tout un tas de catégories. Si vous êtes plutôt littéraire, matheux, vous aimez les animaux, l'informatique ou la pop culture, il y a forcément une catégorie pour vous. Dans l'ensemble, les propriétaires de salons de coiffure ont beaucoup d'imagination et ils y tiennent à leur pépite le nom qui sera unique et qui fera mouche auprès des clients. Moi, j'aime beaucoup le Prince de Bel Air, donc H-A-I-R.
Ah, pas mal.
À Lens, dans le Pas-de-Calais, le salon Voltaire Coiffure qui se trouve à Paris.
Pas mal.
À côté de l'arrivée de métro Voltaire, évidemment.
À côté
et si vous préférez la nourriture, le salon Clafoutif vous accueillera dans le Pas-de-Calais.
Ah ouais, ils sont forts quand même. Est-ce qu'il y a des jeux de mots qui reviennent plus que les autres?
Oui, forcément, il y a des noms qui ont la cote plus que d'autres. Les trois noms les plus utilisés sont diminutifs, avec 156 salons quand même. Ensuite, Imaginaire, 149 salons. Et Bulle d'air, 142 salons, donc en deuxième et troisième position.
Et il y a encore plus original que ça?
Oui, j'ai un petit faible pour les salons Ainsi soit-il et Bouc émissaire. Ça paraît simple, mais ils ont dû passer quand même du temps à les trouver. Et sachez que si vous êtes en Haute-Loire ou en Creuse, ces deux départements sont ceux qui possèdent le plus de jeux de mots en France. Vous êtes les plus imaginatif. Bravo.
Oh, bravo.
Eh, c'était même pas fait exprès.
Bravo, content aussi, j'imagine. Moi, j'ai repéré un classement des aliments que les Français détestent le plus. C'est l'endive qui arrive en première position. Je suis tombée de ma chaise en découvrant ça, en découvrant le résultat de ce classement publié par Deliveroo. Je pensais que les épinards étaient indétrônables. Au final, ça n'apparaît même pas dans le top 10. Dans le top 10, il y a aussi le gingembre, les fruits secs, les sardines, les choux de Bruxelles, la coriandre, les oignons, la réglisse, les poivrons et les huîtres. D'accord ou pas?
50%, ouais, je suis dedans, je pense. Hein.
Ah ouais?
Ouais. Genre la réglisse, c'est pas trop mon.
Ah ouais, moi non plus.
C'est pas trop mon.
Moi non plus. C'est l'heure de découvrir qui a reconnu la voix du jour.
RMC. La voix du jour.
C'est Mickaël, apparemment. Mickaël qui nous appelle de Notre-Dame de Bondeville en Seine-Maritime. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui?
Oui, très bien, merci.
Vous êtes au boulot là?
Oui, tout à fait. Ouais. Je me suis arrêté. Je suis livreur.
Vous êtes livreur. On va voir si vous avez reconnu la voix du jour. D'abord, on la réécoute. On aura votre réponse juste après.
L'année dernière, c'était une grosse saison. Après, maintenant, c'est un nouveau challenge. L'idée que j'ai en tête, c'est de faire mieux, d'être meilleur encore sur le terrain. Mais de toute façon, je suis préparé mentalement pour essayer de faire beaucoup mieux.
Alors, de qui s'agit-il, Mickaël?
Karim Benzema.
Eh ben bien joué, Karim Benzema, joueur du Real qui affronte ce soir Francfort en finale de la Super Coupe d'Europe en Finlande. Un match à suivre à partir de 21h à la télé sur RMC Sport 1 et à la radio sur RMC. Bravo, bravo à vous. Vous avez gagné une montre qui se recharge à la lumière naturelle. On vous envoie tout cela, évidemment. Passez une excellente journée.
Merci beaucoup à vous aussi.
D'RMC. Il est 5h27. Dans un instant, la météo d'Anthony Kazmarek, suivi du journal.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
Il est 5h30, bon réveil, le journal d'Alexandra Stiergan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Gironde, Aveyron, Maine-et-Loire, partout en France, les incendies se poursuivent. Plus de 42 000 hectares brûlés depuis le début de l'été. L'Iran accorde une permission de sortie de prison à Fariba Adelra, la chercheuse franco-iranienne est détenue dans le pays depuis 3 ans maintenant. Et puis Alexis Sanchez, accueilli comme le Messie à Marseille, RMC y était.
La France est partie pour battre un triste record cet été.
Avec plus de 42 000 hectares brûlés depuis le mois de juin, les incendies font rage sur tout le pays. En Aveyron, en Isère, dans le Maine-et-Loire, mais aussi en Gironde. Le département connaît depuis hier des reprises de feu près de Landiras, où 14 000 hectares de végétation ont brûlé déjà le mois dernier. Depuis hier soir, 1 000 hectares de pinsons partis en fumée et 3 500 personnes évacuées. Les pompiers sont sur tous les fronts pour tenter de maîtriser ces incendies sur tout le territoire. Mais cette situation est sans précédent pour le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile.
Ça fait déjà un mois et demi que les équipes sont engagées. On est donc sur un deuxième, un troisième, un quatrième cycle. Certaines équipes ont été engagées en Gironde, puis sont revenues, puis sont reparties dans le sud-est de la France. Et les équipes sont fatiguées, travaillent dur. Il y a des relèves qui sont permanentes. On a parlé de la précocité, mais de la globalisation des feux, c'est à prendre en compte. On l'avait projeté des cartes sur 2030-2050 avec les rapports du GIEC, avec l'analyse de Météo France. C'est des choses qu'on avait projetées à T+5, T+10 ans et qui arrivent déjà dès cet été.
Ces incendies causés par ces épisodes de forte chaleur à répétition, le troisième épisode caniculaire se poursuit aujourd'hui avec 18 départements en vigilance orange canicule. Et cette chaleur n'est pas sans conséquence pour le tourisme cet été. Dans les Alpes de Haute-Provence, l'accès aux gorges du Verdon est interdit depuis le 5 août. Une décision préfectorale motivée par l'assèchement du lac de Sainte-Croix à la grande déception des vacanciers.
Le niveau du lac de Sainte-Croix a baissé de 7 mètres.
J'ai jamais vu ça, là. C'est...
On est loin des vacances rêvées par Nadine qui vient ici depuis 30 ans.
En fait, moi, je voulais faire revivre à mes petits-enfants les souvenirs que j'avais vécu avec mon mari, mes enfants, et faire du canoë dans les gorges, aller plus loin, pique-niquer et revenir. Et on n'a pas pu le faire.
Conséquence de cette fermeture, la fréquentation du site a baissé de 30%. Bernard Nadal, responsable d'une base nautique sur le lac, a perdu plus de la moitié de ses clients.
Il n'y a personne. Regardez, faites un tour sur les plages, il y a 4 personnes qui se baignent. Catastrophique.
Ici, seulement 80 cm de pluie sont tombés cet hiver contre 6 mètres habituellement et c'est une situation qui pourrait se reproduire. Il va falloir s'adapter à ce changement climatique pour Charles-Antoine Mordelet, maire d'Aiguine, une commune située à 2 km du lac.
Il va falloir trouver d'autres idées pour que les touristes viennent nous voir parce que les années de plein emploi touristique, on a un peu le sentiment qu'elles sont derrière nous.
Des orages sont prévus cet après-midi dans les gorges du Verdon. Ils n'auront jamais été aussi attendus.
Reportage de Tanguy Roman Clavelou avec les équipes de BFM TV.
L'Iran accorde une permission de sortie de prison à Fariba Adelra.
Oui, cette chercheuse franco-iranienne détenue en Iran depuis 3 ans, condamnée par la justice iranienne pour atteinte à la sûreté nationale. Fariba Adelra va pouvoir sortir de sa cellule de prison à Téhéran, mais seulement pour 5 jours, une première avancée, selon son comité de soutien contacté par Romain Houg.
Voilà une annonce qui soulage un peu ceux qui soutiennent Fariba Adelra sans faille depuis maintenant plus de 3 ans. Parmi eux, le chercheur Jean-François Bayard.
C'est une joie, mais une joie tempérée dans la mesure où cela ne change rien au fond du problème. La détention de Fariba Adelra est complètement inique. Alors là, elle a un répit. Nous nous en félicitons, mais encore une fois, l'injustice totale.
Car ses proches ont toujours démenti les accusations d'espionnage qui pèsent contre Fariba Adelra. Pour eux, l'Iran se sert d'elle comme d'une otage politique pour peser dans les négociations diplomatiques avec la France. Mais rien, selon Jean-François Bayard, n'entamera la détermination de la chercheuse.
Elle a eu des moments, pas d'abattement, parce que ça n'est pas son caractère, mais des moments de tristesse, de désarroi. Mais elle reste très combative. Elle exige sa libération immédiate, inconditionnelle, parce qu'elle est innocente.
5 jours de liberté toute relative, donc au cours desquels Fariba Adelra devrait pouvoir retrouver sa famille et son nouvel appartement à Téhéran. Son avocat, lui, espère que cette permission permission pourra être prolongée.
On l'a appris hier, Alexis Sanchez va défendre les couleurs de l'OM cette saison. L'attaquant chilien de 33 ans a été accueilli hier soir en fanfare à l'aéroport par un millier de supporters marseillais. Florent Germain y était pour RMC.
Oui, devant un immense drapeau du Chili ramené pour l'occasion à l'aéroport de Marignane, les supporters marseillais se sont d'abord chauffé la voix en attendant Alexis Sanchez. La star chilienne, ancien du Barça, d'Arsenal ou de l'Inter Milan, a débarqué à 20h50, pantalon blanc, maillot de l'OM avec le numéro 70. Ambiance chaotique, ambiance bouillante sous les cris et les fumigènes. Driss, fan de l'OM aux premières loges hier, voulait réserver à Alexis Sanchez une ambiance sud-américaine.
Il ne s'attendait pas à ça, il a connu l'Inter, Arsenal, Manchester, c'est des ambiances un petit peu feutrées. Nous, chez nous, c'est le feu, c'est comme chez lui.
Plus de 1000 supporters, de nombreux médias aussi et un journaliste chilien présent, Enzo Oliveira, convaincu que cette ambiance va transcender celui qu'ils appellent El Niño Maravilla, l'enfant prodige.
Il est venu chercher cela, le cœur, la passion. Il est habitué aux ambiances chaudes et à la pression. Il a joué au Barça, à Arsenal, à l'Inter. Alors il va mettre ce sac à dos plein de folie sur ses épaules, mais ça ne va pas lui peser.
Alexis Sanchez est la recrue star de l'OM. Il sera présenté en conférence de presse cet après-midi au stade Vélodrome.
Et nouvelle désillusion pour l'AS Monaco. Le club de la Principauté ne disputera pas la phase des poules de Ligue des Champions. L'ASM a été battu hier après prolongation 3-2 face au PSV Eindhoven. Et puis ce soir à 21h, finale de la Supercoupe d'Europe à Helsinki en Finlande. Le vainqueur de la Ligue des Champions affronte le vainqueur de la Ligue Europa, Real Madrid vs Francfort. Match à suivre à partir de 21h donc à la télévision sur RMC Sport 1 et à la radio sur RMC.
Après près d'une semaine d'errance dans la Seine, le Beluga va peut-être enfin pouvoir retrouver la mer.
Oui, la première étape de l'opération de sauvetage est réussie. La baleine blanche a pu être sortie de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne cette nuit. Selon les sauveteurs, l'animal est bien vivant, mais très amaigri. Les habitants des environs sont venus observer cette opération impressionnante, comme Geoffrey.
Ça a commencé là pendant une heure où vraiment on a été tendu, où on entendait un coup il était parti, un coup ils l'ont rattrapé de justesse puisque ils ont cru à un moment donné qu'il était reparti. On a vu un peu aussi quand même que un peu tout le monde paniquait puisqu'ils étaient un peu perdus quant à savoir comment fallait procéder. On a cru que ça allait être compliqué. On sait que c'est quand même risqué. C'est quelque chose qu'on voit une fois dans sa vie. On a vu les différents essais de sauvetage, notamment les deux premiers en fait qu'on n'a pas réussi. Le troisième qui du coup a été plus long, je pense, a été un peu plus méthodique et du coup avec succès et on est content.
Pour le moment, les sauveteurs mènent des contrôles supplémentaires pour savoir si le cétacé peut être acheminé vers Ouistreham.
Les courses, le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule à 20h15 aujourd'hui.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le favori c'est l'As Galileo Bello, l'outsider c'est le numéro 12, Écho de Champs-Lessy. L'As est le numéro 12, la course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Alexandra Sirgan, on te retrouve à 6h30 avec Sébastien Krebs et toute l'équipe d'Apolline Matin. C'est le moment de parler d'une légende qui a décidé de tirer sa révérence.
La Story Sport.
Avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Matin donc, tu nous parles de Serena Williams, la joueuse de tennis américaine a annoncé prendre dans quelques semaines sa retraite après une carrière phénoménale, on peut le dire.
Serena Williams.
23 titres du Grand Chelem, 73 titres en tout, 319 semaines à la place de numéro 1 mondial, un palmarès incroyable. Et à bientôt 41 ans, Serena Williams a annoncé dans le magazine américain Vogue que le compte à rebours a commencé avant qu'elle ne prenne sa retraite. Il n'y a aucun bonheur pour moi là-dedans, c'est une grande douleur, c'est la chose la plus difficile que je pouvais imaginer. Je déteste ça, a-t-elle écrit. Et lundi à Toronto, au Canada, après sa première victoire depuis plus d'un an sur le circuit, elle ouvrait déjà une porte à une fin de carrière lorsqu'une journaliste lui demandait ce qui l'a poussé encore à jouer.
Je ne sais pas, il y a une lumière au bout du tunnel et je m'en rapproche. Je suis impatiente de l'atteindre. Elle représente la liberté. J'aime jouer, mais je ne peux pas faire ça pour toujours. Parfois, tu essayes juste de faire de ton mieux et de profiter de ces moments.
Serena Williams va arranger ses raquettes. On ne sait pas encore quand exactement, mais on sait que c'est pour se consacrer à sa famille.
Oui, déjà maman en 2017, d'une petite Alexis Olympia, la famille pourrait s'agrandir. Ma fille le dit souvent, elle voudrait une petite sœur. Alors l'américaine insiste, elle n'aurait jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et sa famille, elle aime les deux. Mais son sport, c'est 27 ans de sa vie, c'est surtout l'histoire d'une petite fille noire venue d'une famille américaine modeste et qui rêvait de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde. Elle l'est devenue, c'est une icône, une légende. Elle a révolutionné son sport avec un jeu tout en puissance. Serena a marqué les esprits et surtout surtout ceux de ses adversaires. Marion Bartoli l'a affronté à plusieurs reprises et l'a même battue.
Sur le terrain, c'était bien sûr une véritable tigresse et qu'elle avait la ferme envie d'aller gagner tous les matchs. Et ça sera une joueuse qui, comme sa sœur, aura révolutionné le tennis et inspiré tellement de générations.
Et son dernier match, elle pourrait le jouer à l'US Open, je crois, le grand chelem américain, c'est ça ?
Oui, alors, elle ne le dit pas officiellement, mais tout porte à croire qu'on la verra pour la dernière fois sur le mythique court de Flushing Meadows à New York, où elle s'est imposée à 6 reprises. Je ne sais pas si je serai prête à gagner l'US Open, mais je vais essayer.
Pour finir en beauté, évidemment.
Ben voilà, parce que forcément, la soif de vaincre d'une championne n'est jamais atteinte. Elle a toujours un record en tête, remporté un 24e grand chelem. L'américaine, 407e mondiale, ne fera pas partie des favorite au titre, mais avec son mental et porté par un public acquis à sa cause, elle peut rêver d'une belle sortie. Et d'ailleurs, Serena conclut son interview à Vogue par un dernier message à ses fans. « Je ne suis pas douée pour les au revoir, la pire au monde même. Vous m'avez portée vers tellement de victoires et de trophées, vous allez me manquer. »
Thank you everyone, I love you.
Mais nous aussi, on t'aime, Serena. Et je suis sûre qu'on va la revoir. L'histoire de notre histoire avec elle n'est pas terminée.
Ah bah, on l'espère.
Parce qu'elle fera, forcément autre chose.
Bah, les businessmen en plus de tout ça.
Évidemment,
donc, voilà.
Évidemment. Merci beaucoup, Léna. À demain, la Story Sport à retrouver évidemment en podcast sur l'appli RMC. Il est 5h41.
RMC jusqu'à 6h. Charles Matin.
Anaïs Castagna.
Allez, on en vient à cette question. Faut-il élargir le droit de vote à tous les étrangers pour les élections municipales ? C'est la proposition du député Renaissance Sacha Houlier, président de la commission des lois à l'Assemblée. Il a déposé une proposition de loi constitutionnelle dans ce sens la semaine dernière. Le texte, s'il est adopté, va permettre à tous les étrangers, même hors de l'Union européenne, de participer aux élections municipales. Il permettrait aussi de se présenter sans pouvoir accéder au titre de maire ou au titre de maire adjoint. Une proposition qui fait réagir au sein même du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se dit fermement opposé à cette mesure selon son entourage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous nous dites au 32-16 et sur l'application Direct Studio. Évidemment, on vous attend. Il faut savoir que depuis 92, les citoyens de l'Union européenne qui habitent en France peuvent déjà voter pour les municipales et les européennes, mais pas les autres. Sacha Houlier pense que c'est une discrimination. Il veut y mettre un terme. Ce député Renaissance de l'Hérault y est plutôt ouvert. Écoutez.
Je pense qu'il faut que les gens qui vivent dans une ville et qui l'aiment, qui travaillent, qui paient des impôts, qui ont des enfants qui vont en scolarité, qui participent à la vie citoyenne, je pense qu'ils doivent voter pour les élections municipales. Peut-être qu'il faudrait qu'on réside dans la ville 2 ans, 3 ans ou 5 ans et pour qu'on la connaisse. Moi, je voudrais pas non plus que des gens puissent voter, ils viennent d'arriver. Donc, il y aurait une implication sur ça. Et c'est aussi un gage aussi d'ouverture aux gens qui habitent dans leur ville et qui les aiment. La municipalité, c'est la gestion de la ville. Là, on ne parle pas de mettre en place des sénateurs, des parlementaires, on ne parle pas d'autres élections, mais sur une vie municipale, moi, je pense qu'on peut le mettre en place et je pense qu'on a besoin d'évoluer.
Un gage d'ouverture, nous dit Patrick Vignal, mais le sujet divise au sein même de la majorité. Au Rassemblement national, on y est formellement opposé. Écoutez Philippe Ballard, député du RN de l'Oise.
Monsieur Houlier fait tout simplement de la manipulation. Moi, des Bulgares qui votent aux élections municipales ou européennes en France, j'en connais pas beaucoup. Il y a sans doute effectivement beaucoup plus de Britanniques depuis le Brexit qui ne pourront plus voter. Mais en fait, derrière tout cela, il y a un autre projet. C'est de faire voter des ressortissants du Maghreb, d'Afrique, voire asiatiques, qui vont développer, renforcer le communautarisme. Imaginez ce qui pourrait se passer dans des villes comme Trappes, comme Roubaix, comme Vénissieux, et on pourrait multiplier malheureusement les exemples. La proposition de Monsieur Houlier fait tout simplement le jeu du communautarisme et de la sécession de la France.
Ah, les mots sont forts. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ça. On va en parler ce matin avec le député des Alpes-Maritimes LR, Éric Ciotti, qui est lui aussi opposé à cette proposition. Il nous dira pourquoi. Il est l'invité de Sébastien Krebs à 8h40 sur RMC dans Apolline Matin. Mais ce qui vous fait réagir ce matin énormément au 32-16 et sur Direct Studio, ce sont les pénuries de main-d'œuvre qui touchent de nombreux secteurs. L'hôtellerie et la restauration, alors qu'on est en pleine saison, mais aussi le bâtiment, la santé. On vous pose la question concrètement sur RMC, à qui la faute ? Est-ce que les patrons n'en font pas assez ? Est-ce qu'ils doivent faire un effort pour augmenter les salaires ? Vous nous dites au 32-16. Rachel, tiens, nous appelle. Bonjour Rachel, ça va ?
Bonjour Anaïs, bonjour.
Vous nous appelez des Côtes d'Armor, vous êtes où exactement ? Je me souviens plus.
Moi, j'habite à côté de chez Estelle Denis, donc voilà.
Ah ben, elle est où, Estelle?
Étable-sur-Mer, voilà.
Ah, Étable-sur-Mer, ben écoutez, je ne savais pas. Comme ça, je suis au courant, je pourrais m'inviter, peut-être, si je passe un jour par là. Rachel, qu'est-ce que vous en pensez? À qui la faute?
Bah déjà, je voudrais dire bonjour à tous mes collègues qui roulent, qui travaillent, des gens qui travaillent en général, hein. Les routiers, les boulangers, mon fils qui travaille à cette heure-ci. Bah, la faute à qui? Dans mon métier en tant que chauffeur routier, 32 ans de métier, bah, je dirais à nos chers employeurs qui continuent à s'en mettre. Alors, il y en a qui vont me dire oui, nos patrons, il y a des bons patrons, mais il y en a qui se mettent toujours autant d'argent dans la poche, qui ne veulent pas redistribuer. Vous savez, notre métier, si on ne trouve plus de jeunes pour le faire, bah, il faut se poser les bonnes questions. Hein. C'est tellement dévalorisé. Quand vous entendez un ministre, ex-ministre, M. Tchibari, qui est aux grandes gueules, qui ose dire un jour à la radio que les frais de route d'un chauffeur routier, c'est du salaire, alors que ces gens-là, M. Tchibari, qui prenait...
C'est un métier, Rachel, c'est un métier compliqué, c'est un métier difficile, c'est ça que vous voulez
c'est
dire
un métier de passionné. Et que ça... ouais. C'est un métier de passionné. Si vous n'êtes pas passionné par le métier, vous ne durez pas dans le métier. Tous mes collègues qui ont 30 ou 35 ans de métier, c'est des gens qui ont été passionnés de conduire un camion. C'est ça la passion.
Alors pourquoi, si c'est un métier de passionné, pourquoi on n'arrive pas à recruter?
Anaïs, 12,30 €. Le SMICAR, il est à 11,60 ou 11,70. Anaïs, j'ai changé 3 fois d'employeur en une année.
Là, vous venez de changer.
Oui, je viens de changer. Je suis passé en intérim. Je choisis mes patrons. Tu veux pas me payer? Eh ben, c'est pas grave. Au revoir, je m'en vais. Et ils payent parce qu'arrivé à un moment ou l'autre, ils veulent des gens qualifiés, ils veulent des gens ponctuels qui aillent livrer la marchandise, qui n'aient pas d'accident, qui n'aient pas d'avarie sur la marchandise. Mais ils ne veulent pas payer. Et le transport, Anaïs, quand on dit que les prix flambent dans les supermarchés, mais c'est le transport qui flambe aussi. Et malheureusement, eh ben, ils s'en mettent les chargeurs, les ex-Norbert Tressangle et tous ces gros chargeurs qui
transporteurs,
voilà, n'ont jamais autant gagné d'argent. Je ne l'invente pas. Demandez à Le Chypre, il va vous le dire. Emmanuel Le Chypre, il va vous le dire. Les transporteurs se gavent.
Vous pensez en l'occurrence que les patrons ne font pas assez d'efforts. C'est ça le problème. Je voudrais juste vous revenir sur quelque chose que vous venez de nous dire. Vous avez changé 3 fois donc d'employeur là cette année. Situation inédite, vous l'aviez jamais fait?
Si, parce que les patrons,
vous avez l'habitude de faire comme
voir,
ça.
Ah, ils vous disent oui, ils vous payent. Ouais. Et puis au bout de 2-3 mois, ils vous disent tu vas le voir. Puis comme moi, je suis un ancien qui note toutes mes heures tous les jours ce que je fais. Je lui dis, mais il me manque des heures. Ah oui, mais il me dit, tu sais, c'est dur, le gasoil augmente. Mais je lui dis, mais le gasoil, un transporteur, les gens ne le savent pas, ils ont une prime à la cuve. Ils ne payent pas 1,70 € ou 1,80 €.
En tout cas, c'est pénible de devoir aller quémander à chaque fois comme ça, quand on a travaillé, quand on fait correctement son travail.
Voilà, j'envoie ma lettre de démission, et puis après, je dis au revoir.
Ouais.
Et on retrouve du travail, parce que les gens qui veulent travailler, ils trouvent du boulot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Eh ben, merci beaucoup, Rachel. Merci. Et vous l'avez dit ce matin sur RMC, on est ravis de vous avoir donné la parole. Thibault Langsade, entrepreneur, ancien vice-président du MEDEF, sera avec nous à partir de 7h40 et surtout, il répondra à vos questions. Il sera face à vous surtout et il nous donnera son point de vue de patron. Venez échanger avec lui. Merci beaucoup, Rachel, et bonne journée puisque vous êtes déjà au boulot. 5h48, vous écoutez RMC. Bon réveil à tous. Dans un instant, on retrouve Angèle.
Bonjour Angèle. Bonjour à tous.
T'es venue avec tes manettes aujourd'hui?
Je suis venue avec mes manettes. On va faire un petit point sur tous les jeux vidéo attendus à la rentrée.
Eh ben, on a hâte. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 6h, Charles Matin.
5h50, à la une ce matin, le beluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau. Première étape de l'opération hors norme pour tenter de le remettre en mer. On sera avec Mathieu Limongi, notre envoyé spécial à Saint-Pierre-la-Garenne, dans le journal de 6h. La reprise des flammes près de Landiras en Gironde, 1000 hectares brûlés, 3500 personnes évacuées, des centaines de pompiers mobilisés. Écoutez le témoignage de cet habitant, il est très inquiet.
On
laisse sa maison, donc on sait jamais dans quel état on va la retrouver. Surtout qu'on l'a déjà vécu une première fois où soi-disant on devait partir pour quelques heures et puis que ben, ça a duré plus d'une semaine. Donc là, on a toujours peur qu'on soit malheureusement amené à ne pas rentrer demain ou après-demain.
Dans l'Aveyron, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se rend sur place aujourd'hui. Et puis Monaco ne jouera pas la Ligue des Champions. Les Monégasques ont été battus après prolongation 3-2 par le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire hier. Un point sur la météo. J'allais te squeezer. Non, mais incroyable. Quel scandale. Il fera encore très très chaud aujourd'hui. Il y aura du vent.
Oui, exactement. Du vent sur tout le pays. Vent de nord-est dans la moitié nord et sur la côte atlantique. Vent de sud dans la vallée du Rhône. Vent d'autant en pleine Toulousaine. Ça n'est évidemment pas une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre les incendies, avec encore du soleil et quelques orages en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées, la montagne Corse, et des températures donc encore en hausse. 32 à Lille et à Strasbourg, 34 à Paris et Marseille, 36 à Nantes, 38 à Bordeaux et Toulouse, et 16 départements de la façade ouest en vigilance orange canicule.
Merci beaucoup Anthony pour ce point complet, tu vois, je me fais pardonner. C'est l'heure de l'été d'Angèle.
L'été d'Angèle.
Angèle Châtelier, rebonjour.
Rebonjour.
Ton rendez-vous culture comme tous les matins. Ce matin, tu nous parles de jeux vidéo parce que ça aussi, c'est de la culture.
Évidemment. Et c'est un secteur qui a généré l'année dernière presque 6 milliards d'euros. C'est colossal. Alors évidemment, si on veut profiter de l'été pour jouer, je ne sais pas si tu joues souvent, toi, Anaïs, aux jeux vidéo.
Non. Non, c'est pas mon truc.
Non, mais chacun son truc.
Jouer à Tetris quand j'étais petite. Ouais.
Candy Crush aussi.
Non, pas Candy Crush. Tetris, voilà. Ça n'allait pas très très loin. Voilà.
Écoute, moi j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, mais je t'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur sur un jeu vidéo phénomène. Tu en as peut-être entendu parler, c'est sorti il y a quelques semaines. Ça s'appelle Stray, c'est disponible sur PlayStation 4, 5 et PC. Et dans ce jeu, vous incarnez un chat, un sublime chat roux comme le mien. Derrière ce jeu, une entreprise de Montpellier, il fait déjà le buzz. Vous êtes placé dans la peau de ce chat errant. Il y a des énigmes, des quêtes. Alors écoute, une quarantaine d'euros et ce sera vraiment parfait pour votre été si vous avez envie et le budget.
Ah mais c'est pas mal, mais ça ouais. Peut plaire à ma fille. Je sais pas si c'est à destination
c'est
des
enfants.
C'est
pour les adultes, pour tout le monde.
Super. Donc, serait pour cet été, j'imagine qu'à la rentrée, il y a des jeux vidéo attendus. Hein.
Évidemment, et pour être sûr de vous prodiguer les meilleures informations, je suis allée toquer à la porte de la rédaction du site jeuxvideo.com, référence en la matière, et c'est le journaliste Mohamed Aiguin que j'ai rencontré, et lui mise beaucoup sur un jeu très attendu, Hogwarts Legacy, un jeu qui prend place dans l'univers d'Harry Potter et qui devrait sortir dans quelques mois.
L'objectif, c'est clairement d'être dans un monde où va être immergé dans Poudlard, en fait, et dans tous les lieux qui seront un peu aux alentours. Et on va devenir le sorcier qu'on a vraiment envie d'être. On va choisir sa maison, sa propre baguette, mais également ses propres amis. La particularité ici, c'est qu'on n'aura jamais eu autant de lieux à découvrir. Jamais autant de liberté, jamais autant de possibilités d'interaction avec le monde, les personnages, etc. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui attire le plus les gens, parce qu'auparavant, les jeux étaient basés sur les films, surtout. Et on va découvrir plein de mystères de l'univers de Poudlard, etc. Plein de choses qui sont dans la saga Harry Potter, qui seront expliquées dans ce jeu. C'est clairement le jeu Harry Potter que tous les fans d'Harry Potter ont envie de découvrir pour vraiment avoir une aventure qui sera épique. Ils pourront s'immerger un maximum. Donc je conseille vraiment ce jeu en premier parmi les jeux les plus attendus pour cette fin d'année.
Alors, Harry Potter, Hogwarts Legacy, qui est donc attendu pour l'hiver prochain sur PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch. Bref, prépare-toi aussi, Anaïs, à vivre une rentrée sous le signe d'Avatar, le blockbuster de James Cameron sorti en 2009. Plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes.
Et alors, il y a un jeu qui va sortir, un jeu Avatar?
Ouais, c'est ce que m'a appris Mohamed. Hein. Ce jeu s'appellera Avatar Frontiers of Pandora.
C'est un jeu qui, justement, prendra place dans l'univers de Pandora, qui sera en vue FPS, donc en vue à la première personne. On verra pas notre personnage pour vraiment avoir un maximum d'immersion. Pour le moment, on a eu qu'un trailer. Par contre, le trailer était extrêmement explosif et montrait vraiment toute la subtilité par rapport au nouveau moteur de jeu et les graphismes qui sont mis en place pour avoir un Pandora qui est vraiment ultra réaliste et qui, justement, va de pair avec la sortie d'Avatar The Way of Water en décembre prochain. Donc, on est vraiment dans une période Avatar à partir de septembre avec la sortie du film, ensuite le jeu, puis le second film. Là, je pense qu'on va vraiment être plutôt pas mal.
Ouais, une rentrée Avatar, beaucoup, hein. il y en aura un peu partout.
Bah, merci pour tes bons conseils, Angèle Châtelier. Rappelle-moi le nom du jeu avec le chat, parce que ça,
Stray.
Ok, c'est pas mal, merci pour ces bons conseils. Toi, tu joues, toi?
Plus trop maintenant, mais quand j'étais plus jeune, oui. Je sais pas si tu te souviens de la Nintendo DS. Moi, j'avais ça quand j'étais plus jeune et je jouais à Nintendogs. On avait un petit chien, on devait s'occuper d'un chien.
Bah justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est aussi un truc de fille, aussi
évidemment.
Un truc de nana, parce qu'on a tendance à dire les jeux vidéo, c'est pour les hommes. Bon, moi, en l'occurrence, je suis le mauvais exemple parce que je joue pas trop, mais c'est aussi, aujourd'hui, je crois que c'est quasiment quasiment moitié-moitié.
Ouais,
quoi.
Et on remarque aussi, vraiment rattrapé
le niveau.
Effectivement, on le remarque aussi sur YouTube, sur Twitch, sur tous ces réseaux sociaux-là qui sont liés aux jeux vidéo. Il y a de plus en plus de femmes et heureusement qu'elles sont là.
Merci beaucoup, Angèle Châtelier. On termine avec cette petite musique. Tiens, on va aller demander à Sébastien Krebs si lui aussi, il est amateur de jeux vidéo. Bonjour Sébastien.
Salut Anaïs, salut Angèle.
Tu joues, toi ?
Alors, pas du tout. Moi, j'en suis resté à la Wii avec Mario Kart.
C'est quand même mieux que moi, tu vois. Moi, je disais Tetris, donc la Wii, c'est peut-être mieux, tu vois, quand même.
Oui, Tetris. Après, c'est mon enfance, oui. Ah, évidemment, la Nintendo, quoi.
Mais les jeux vidéo, aujourd'hui, ça cartonne. C'est vraiment très, très important dans la culture. Hein. C'est même ce qui fait le plus de ventes.
Exactement.
C'est le premier produit culturel vendu en France. Je vous attends, Anaïs Angèle. Vous arrivez sur le plateau d'RMC Story. Apolline Matin commence dans quelques secondes. À tout de suite.